vais donner la parole pour quelques minutes. Oui, il souffle, mais je vais quand même le faire. Je vais donner la parole à Roger Aymar, mais il y aurait beaucoup d'autres personnes qui auraient pu prendre la parole. Roger Aymar, c'était un parmi tous ceux qui ont créé Voilco en 1963. Donc Roger, si tu veux bien nous donner 5 minutes.
Il n'y a pas d'élu, apparemment, pas d'officiel, pas de personnalité. Ça m'évitera des remerciements compassés, surannés, obligatoires et néanmoins laïques. Mais Monsieur le Président, quand même, celui de Voilco, mes chers amis, mes chers camarades, il faudrait bâcher aujourd'hui. Le temps est rude. Il y a 50 ans, le printemps de cette année-là était aussi pluvieux. L'amitié qui nous rassemble ici pour ce 50e anniversaire, cette amitié, même si le temps est un peu incertain, cette amitié n'a que des devoirs souriants. Non pas pour faire dans l'image sépia du souvenir, non pas pour faire dans le memory boom, comme disent les Anglais, dans le prurite mémoriel, hein, pour se complaire dans les souvenirs et dans l'histoire de ces années-là, mais pour rappeler quelques-uns des moments qui ont créé Voilco. Et ces moments-là qui ont la vie dure, puisque en 2013, une association qui, dans ses slogans, affiche le terme « citoyenneté », ça veut dire qu'elle a bien vieilli. Donc, à ce printemps-là, qui était soucieux, pluvieux, sourcilleux aussi, ce printemps-là, des dizaines et des dizaines de personnages curieux qui n'étaient pas des chercheurs de champignons, qui n'étaient pas des pêcheurs non plus, qui n'étaient pas des chasseurs, encore moins des touristes à cette saison, c'était au mois de mars. Ils étaient une fois 30, le dimanche suivant ils étaient 50, quelques temps après ils étaient 70, qui s'agitaient, car c'était bien le mot, ils s'agitaient dans ce qui était un bosquet à l'époque, et où se trouve Voilco à l'heure actuelle, et il s'agitait et cultivait l'utopie tous les dimanches et les jours fériés, pas dans les salons, pas dans les think tanks, des partis politiques, des cabinets d'experts ou autres, mais au bout des pioches, des pelles, des haches et des râteaux pour défricher ce qui est, pour faire le brouillon, disons, concrètement de ce qui allait devenir Voilco. C'est-à-dire pour couper des arbres intelligemment, on en avait gardé pas mal, pour faire le brouillon de ce qui allait devenir la route, pour faire le terrassement de ce qui allait être le premier bâtiment de Voilco, à la fois hangar à bateaux, secrétariat, cuisine et salle à manger, le petit bâtiment du bas. Évidemment, dans la Corrèze de l'époque et dans le Saint-Prié de l'époque, ça faisait parler. Ça faisait beaucoup parler. Ces gars-là et ces femmes-là, qui viennent là, qui travaillent à l'œil, ils travaillent à l'œil, mais ça ne doit pas être pour rien quand même. Il doit y avoir quelque chose derrière. Hein. Il doit y avoir quelque chose là-dessous. Alors dans ce climat un peu, sinon suspicieux, tout du moins frileux, effectivement, il y avait des paysans qui venaient de Puy d'Arnac, des paysans qui venaient de Sérillac avec Yves Thérieux, des paysans qui venaient de Perpezac-le-Blanc avec Roger Lajoigny, des jeunes ouvriers de la manufacture de Tulle, qui étaient membres du club des jeunes créé par les éclaireurs de France à Tulle, des jeunes ouvriers de Lamarque, des anciens stagiaires des stages congés cadres de Publiculture, des anciens des Unipop de Publiculture. Il y avait même la présidente de la fédération des parents d'élèves de l'école laïque, Madame Riche. Et il y avait même, certains dimanches, une crèche ou un centre de loisirs pour les enfants. C'est dire le degré d'organisation qu'avait atteint Voilco à cette époque-là. Alors, quelques faits majeurs. Voilco a rencontré beaucoup d'écueils, pas mal de récifs, beaucoup de turbulences. Et Voilco, 50 ans après, fête aujourd'hui à Saint-Priest son 50e anniversaire. Voilco a navigué avec des vents favorables et avec des vents mauvais. Les vents mauvais étaient de toute nature. Il y avait l'environnement idéologique, l'environnement politique, il y avait l'environnement local, il y avait le manque d'argent, l'absence de terrain, l'absence de lacs, même si en Corrèze il y avait 4000 hectares de lacs, pour se faire un petit coin au soleil en bordant le lac, c'était pas si facile que ça. Il y avait les réserves, disons, d'un certain nombre d'autres associations qui pesaient sur, qui hypothéquaient même au départ ce qui a été une aventure, mais une aventure de gagne petit. Hein, un travail quotidien au jour le jour de gagne petit. Et ces vents mauvais, s'aggravaient d'un environnement politique et idéologique extrêmement ingrat. Pour deux raisons, tout du moins en ce qui concerne Voilco. La première raison, une raison d'ordre général. On parle beaucoup aujourd'hui du phénomène associatif. À l'époque, une association, dès le départ, une association était suspecte. Elle était suspecte aux yeux des officiels, si on peut dire, aux yeux de l'institution, et elle était aussi suspecte aux yeux de beaucoup d'autres associations. À l'époque, en Corrèze, il y avait 250-300 associations, plus de 60 ans après la loi de 1901. Aujourd'hui, il y en a 8000. Cette suspicion, pour ce qui concerne Voilco, renvoyé à l'idéologie politique dominante du département à l'époque, qui était encore, même après 5 ans de 5e République, qui était encore une vieille idéologie radicale socialiste qui faisait de l'État l'agent intervenant majeur en toute situation. L'argent, l'État collecteur d'impôts, l'État percepteur, mais aussi l'État redistributeur, l'État instituteur, l'État intervenant en tous les domaines. Et quand on posait la question, un problème se pose, la solution, elle était le recours immédiatement à l'État, que ce soit dans le domaine sportif, dans le domaine économique, dans le domaine social. Et ce poids de cet environnement pesait très très lourdement sur le développement associatif dans le département. Mais pour ce qui concerne Voilco, cette hypothèque était encore aggravée par deux perspectives majeures de Voilco. La première perspective, c'était de vouloir faire de l'éducation par le sport, c'est-à-dire de se servir du sport nautique pour faire un travail d'éducation populaire et se servir de l'éducation populaire pour faire de l'initiation au sport nautique et au sport de pleine nature. C'était curieux dans le paysage de l'époque. C'était, disons, novateur. Mais l'innovation, ça ne pardonnait pas dans ces temps-là. Le deuxième facteur aggravant en ce qui concernait Voilco, c'est que Voilco était une association atypique. Une association qui n'était pas appuyée sur l'institution, comme la Fédération des œuvres laïques appuyée sur l'école. Une association qui n'était pas adossée à un milieu géographique particulier, comme un foyer rural dans une commune. Une association qui n'était pas adossée à une technique particulière, comme jouer à la belote, si vous voulez, ou jouer aux boules, mais qui se voulait polyvalente et éducative. C'était totalement incompris, mais aussi incongru dans le paysage politique et associatif de l'époque. C'est dire que les résultats, pour employer une expression vulgaire, ça n'a pas toujours été du gâteau. Mais vent mauvais, certes, mais aussi vent favorable. Les vents favorables, c'était la compréhension, voire la bienveillance d'un certain nombre d'instances associatives ou institutionnelles. Les instances associatives, c'est celles qui avaient répondu à l'appel qui leur avait été lancé par Peuple et Culture au mois de juin 1963, qui s'étaient rassemblées à l'Université populaire de Tulle, salle indûment débaptisée en 95 par la municipalité Max Aubert et jamais rebaptisée depuis Université populaire, serait-ce par des municipalités de gauche, qui s'étaient réunies là. C'était la Fédération des œuvres laïques, Peuple et Culture, les Auberges Jeunesse, les Éclaireurs de France, les Francs Camarades, les pupilles de l'école publique, l'œuvre départementale des colonies de vacances et la Fédération des parents, d'élèves et sans doute quelques autres. Phénomène rare, à l'issue de la réunion, la souscription qui avait été ouverte avait réuni près de 2 millions d'anciens francs. 2 millions d'anciens francs traduits en euros, c'est... Il y a des matheux dans la salle, là. Il n'y a pas de calculette. Il n'y a ni calculette ni matho. Ça doit faire plus de 3000 euros. Hein. Bon, c'est dire l'écho, le retentissement et le degré de sympathie qu'avait suscité la création de cette association un peu insolite. Bienveillance des associations du département, intérêt, mais aussi intérêt d'autres instances, bien sûr le ministère de la Jeunesse et des Sports, j'en étais, bien sûr la Caisse départementale d'allocation familiale et son président, Paul Issandou, et puis d'autres instances institutionnelles, dans la foulée, mais avec quelques réserves plus tard, le Conseil Général, dont le président Élie Roby était un des premiers adhérents de Peuple et Culture dans la fin des années 40, au début des années 50, et dont le président de la Commission de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports était Marcel Champé, qui se rappelait avoir été secrétaire national, du syndicat national des instituteurs dans les années 30 et quelques, et qui avait, dans un acte délibéré mais courageux et non sans opposition, décidé de payer les annuités d'emprunt du bâtiment. L'emprunt du bâtiment, c'était quand même à 25 millions d'anciens francs à l'époque, hein, pas loin. Le Conseil général, donc sous l'impulsion de Élie Roby et de Marcel Champé, avait décidé de payer les annuités d'emprunt de ce bâtiment. D'autres instances officielles, plus ou moins éloignées des sports nautiques, mais proches de l'idéal laïque pour lequel voulait témoigner Walco, la mairie de Brive et son premier adjoint, André Jalina, le maire de Vigeois, Francis Rougerie, et beaucoup d'autres petites municipalités du département pour lesquelles cette initiative, pro-originale qu'elle soit, paraissait extrêmement méritoire et surtout méritait d'être encouragée. C'était là quelques-uns des vents mauvais et des vents favorables, mais le vent favorable, c'est vent favorable. Dans ce département où 9 gamins ne savaient pas nager sur 10, en 1960. Hein? Depuis, il s'est fait 50 piscines, 50 en entrant. Je suis assez au courant, j'en ai fait pas mal. Hein. 9 gamins sur 10 qui ne savaient pas nager, c'était un handicap sérieux. Parmi les vents favorables qui ont porté Voilco jusqu'à aujourd'hui, il y avait surtout le dynamisme d'une équipe de militants rassemblés autour de quelques valeurs premières. Il faut dire que dans ces années-là, la guerre d'Algérie était terminée depuis quelques mois. Les cicatrices n'étaient pas refermées. Le général de Gaulle était arrivé au pouvoir 5 ans auparavant. Les partis politiques étaient déboussolés, démoralisés, déstructurés et un peu hagards. La vie syndicale était difficile. L'école laïque menacée. En 1959, Michel Debré, le père du président du Conseil constitutionnel actuel, avec André Marie, l'ancien maire de Biarritz, qui a démêlé avec la justice ces jours-ci, et le père de madame, qui vous savez, André Marie, Michel Debré, avait soumis au Parlement une loi, la loi Debré, qui permettait le financement, sous certaines conditions, le contrat simple et le contrat compliqué, le financement de l'école libre, disait-on à l'époque, mais qui en fait instituait une école sinon à deux vitesses, tout du moins sur deux registres, le registre laïque et celui qui ne l'était pas. Le désarroi des militants, des associations laïques à cette époque-là, était grand. Même s'il y avait une pétition qui avait récolté des millions de signatures, le désarroi des militants laïcs était très grand. Et c'est vrai que les associations laïques étaient sur la réserve, souvent cantonnées dans la fête de l'amicale laïque annuelle ou la fête de la jeunesse annuelle. Comme on dit, ça n'allait pas très loin en fait de combat laïque et de défense laïque. Et un certain nombre de militants laïcs qui venaient de Peuple et Culture, mais pas tous, d'autres venaient des Francas, d'autres venaient des auberges de la jeunesse, ont pensé qu'il fallait témoigner pour l'idéal laïque sur d'autres terrains, avec d'autres moyens, avec d'autres outils, et ils ont pensé qu'il fallait, à cette époque-là, celui qui ne faisait pas la voile et qui n'avait pas de Rolex, c'était un nul, c'était un plouc. On n'avait pas de Rolex, on n'avait pas de voile non plus, mais on a pensé qu'il fallait quand même créer quelque chose sur ce terrain-là. Et Voilco s'est retrouvé dans le vent, comme les Beatles de l'époque. Voilco s'est retrouvé dans le vent en quelques semaines, en quelques mois. Et Voilco a fait son premier week-end, le 1er mai, ici, 1964, avec beaucoup de camarades qui sont aujourd'hui dans la salle. Voilà quelques-uns des éléments fondateurs. Mais toujours vivant et qui dynamise toujours la vie du Voilco d'aujourd'hui, du Voilco d'hier. Le 60e anniversaire sera ensoleillé. Ce que je voulais dire, c'est que il faut saluer la persévérance, le dynamisme de l'équipe actuelle autour de François et autour de Damien, qui ont le culot, en 2013, en plein bric-à-brac culturel, en pleine errance politique et syndicale, dans une situation difficile, qui ont le culot d'afficher sur leur slogan « Citoyenneté pour des jeunes et pour des enfants ». Et ce que je voudrais dire, c'est au nom de tous les copains de l'époque. Ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes tous très heureux. Et il faut saluer l'équipe actuelle d'avoir fait ce printemps pluvieux un été, qui n'est pas toujours pluvieux, qui est souvent ensoleillé, et un été pour les jeunes de la région, au service d'un idéal qui a été le nôtre pendant toutes ces années-là. Voilà, merci.
C'était très long ? Non, super. Merci beaucoup. Alors moi, je suis moins talentueux que Roger. Et j'ai écrit un petit peu parce que sinon, je vais oublier des choses. Comme ça ? D'accord. Bon, je ne vais pas redire ce qu'a dit Roger par rapport à toute l'histoire de Voilco, mais le point fort de Voilco, c'est que dès le départ, il y avait une volonté politique. C'était pas juste créer une base de loisirs pour faire de la voile. Il y avait quelque chose de plus. L'objet qui a été défini dans les statuts en 63, c'était bien démocratiser les activités nautiques, culturelles pour tous les Corréziens. Il n'y avait pas marqué faire de la voile, il y avait marqué démocratiser les activités nautiques. Ça c'était important. Et la deuxième chose qui était importante, Roger l'a rappelé, c'était que Voilco s'est construit pour le peuple et par le peuple. C'est-à-dire qu'il y a eu des souscriptions qui ont rencontré du succès à l'époque pour créer Voilco. Et en retour, Voilco a ouvert ses activités à tous. Encore une fois, la démocratisation. Donc ce par le peuple et pour le peuple, c'est l'éducation populaire. C'est toujours ce qui est de mise à Voilco aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui était fort à l'époque et qui est aujourd'hui encore fort dans l'association. Après, au niveau de la manière de faire, Voilco, c'était pas du tourisme social, dans le sens où il y avait très très vite des pédagogies nouvelles qui étaient appliquées sur le terrain. On faisait de la voile, oui, mais avant tout, j'y étais pas, mais je pense, on venait là parce qu'on passait un moment ensemble, on partageait, on échangeait, on partageait les tâches, c'est les bordées, ça s'appelait les bordées, parce que c'est un terme de voile. Et aujourd'hui, on dit toujours avec les enfants, quand on met la table, qu'on va faire la bordée. Donc on met la table sur la terre ferme, pas sur un bateau, mais c'est toujours une bordée. Et du coup, nous avec tout ça, on est arrivé dans cette association dans les années 2000 en tant qu'animateur. Enfin, moi, j'ai fait une colo en 94 quand j'avais 10 ans, et on a voulu réécrire le projet éducatif parce que il nous paraissait pas forcément en phase avec les problématiques de l'époque. Donc en 2010, on a entrepris ce travail-là qui a été long, des longues soirées d'hiver, pluvieuses, où on a discuté sur quelles valeurs on devait porter dans cette association. Et en fait, on s'est rendu compte que le résultat de tout ce travail-là, il ressemblait assez fort à ce que vous défendiez au départ de Voilco et ce que vous avez fait avec Voilco dans ces premières années, puis dans les années suivantes. Ce qu'on a mis au cœur du projet, c'était le vivre ensemble. Alors vivre ensemble, aujourd'hui, il y a beaucoup de partis politiques, d'organisations qui se revendiquent de ça. La laïcité aussi, il y a beaucoup d'organisations politiques et certaines pas très fréquentables qui se revendiquent de ça aujourd'hui. Nous, quand on l'a inscrit dans le projet éducatif, c'était vraiment des valeurs très fortes, et c'est la première chose qui apparaît dans le projet. Et à Voilco, on veut faire les choses autrement. Monique, qui je la vois pas trop, Monique, elle me disait que sur l'écolo, quand elle était directrice, la première phrase de son projet, c'était vivre des vacances ailleurs et autrement. Voilco, c'est ça. On essaie de faire vivre aux enfants qui viennent ici, en classe, en colo, en formation, les faire vivre ailleurs déjà, dans un environnement qui est quand même privilégié, même si aujourd'hui on n'a pas beaucoup de chance, et de les faire vivre autrement, dans la pédagogie qu'on mène, dans le fonctionnement qu'on adopte dans l'association, que ce soit d'ailleurs dans les activités ou dans le fonctionnement quotidien. On a pour objectif et pour moyen de rendre les gens acteurs. On n'est pas le club maître du pauvre. C'était la phrase qu'on a retrouvée dans les panneaux d'exposition. On fait pas du tourisme social. On fait plus que ça, des activités, des vacances éducatives. Et pour parvenir à ça, déjà en interne, essayons de rendre chacun acteur du projet, chacun vraiment pleinement inspiré et qui puisse porter ce projet fortement. Ce qui fait que cette volonté qu'on a à Voilco, dans toute son existence, elle a créé des turbulences. Il y a eu des clashs, il y a eu des bagarres politiques fortes, parce que les gens vivaient Voilco à fond, et du coup, malheureusement, ça s'est parfois terminé mal avec le départ de certaines personnes parce qu'on voulait pas lâcher sur tel ou tel terme dans la motion d'orientation de 88 ou des choses comme ça. Donc, c'est encore le cas aujourd'hui. Alors pour l'instant, les gens qui sont à la barre ont pas trop lâché, mais bon, il y a des discussions houleuses parfois sur des détails, mais qui n'en sont pas. L'éducation des enfants, c'est pas un détail, et je pense qu'en tant qu'association laïque et d'éducation permanente, c'est la première phrase des statuts de Voilco, on se doit de continuer ce combat pour l'éducation populaire et pour rendre les enfants acteurs. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'État a voulu laisser un peu une place aux associations d'éducation populaire dans les activités, les rythmes scolaires. C'est pas tout à fait un succès, puisqu'on s'y retrouve pas tout à fait. Nous, on reste de demandeurs et force de proposition pour les activités qu'on mène sur nos centres. Le meilleur endroit, le meilleur travail qu'on puisse faire, c'est sur des centres comme ça. Quand les enfants sont avec nous, les enfants, les stagiaires, les animateurs, sur 8, 10, 15, 20 jours. Là, on peut vraiment travailler. On peut vraiment travailler sur le vivre ensemble, le savoir-être, les savoir-faire, apprendre des autres, leur apprendre. C'est plus difficile quand on intervient dans une classe. Mais bon, on y travaille. On est obligé aussi de s'adapter aux réalités d'aujourd'hui. Le combat de Voilco, c'est aussi pour les vacances. Je l'ai répété plusieurs fois dans mon discours parce que c'est vraiment une grosse part de notre projet. Aujourd'hui, en France, il y a un enfant sur trois qui part en vacances. À Voilco, modestement, on essaye de rendre les vacances plus accessibles avec des tarifs adaptés aux familles. Maintenant, il faut dire qu'on n'est pas très aidé par certains partenaires. Je pense notamment à la Caisse d'allocation familiale de la Corrèze qui nous a retiré les bons vacances à tous les organismes organisateur de colo, hein, pas seulement à Voilco, il y a quelques années de ça, et qui les a remis en place cette année, mais Voilco n'en a pas bénéficié. L'ODCV en a bénéficié, mais pas Voilco. Voilà, c'est comme ça. Donc on va faire en sorte que ça change pour l'année prochaine, mais quand on parle de turbulences, c'est un exemple des turbulences qu'on rencontre encore aujourd'hui avec certains partenaires. C'est dommage d'avoir le même objectif, a priori, à savoir se faire partir plus d'enfants en vacances, mais de pas suivre ses objectifs d'effet. C'est-à-dire que là, apparemment, il y a une sélection dans les vacances entre Voilco et d'autres organismes. Donc, on pense à Voilco qu'on peut être complémentaire de ce qui se passe ailleurs, à l'ODCV, dans les FOL de la Haute-Vienne et de la Creuse, mais qu'il faut pas nous oublier. Les vacances à la campagne, ça a encore une signification. Quand je suis venu ici, que j'avais 10 ans en 94, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, mais pourquoi tu es allé en vacances en Corrèze à 15 minutes, j'habitais à Tulle, à 15 minutes, pourquoi t'as fait ça? Et en fait, parce que c'était pas l'endroit qui comptait, c'était le vivre ensemble. J'étais avec mes copains, on a partagé un bon moment, on a pu construire nos activités, construire des appareils photo, faire de la voile, du canoë, et pour moi, c'est ça qui comptait. Donc je pense modestement qu'à Voilco, on peut continuer à proposer des vacances de qualité et éducatives aux Corréziens, même si on est basé en Corrèze. Et pour ça, on va prochainement solliciter très fortement la CAF et le Conseil Général, qui dispensent également des bons vacances, mais pas à Voilco, à l'ODCV. On va les solliciter très prochainement pour que cet état de fait change. Et après, les gens choisiront s'ils préfèrent passer des vacances à la mer ou à la montagne. Libre à eux. Mais en tout cas, on aimerait bien pouvoir leur proposer les vacances à la campagne et leur faire goûter ça, et je pense qu'ils reviendront, puisqu'il y en a pas mal qui reviennent, qui font des colos chez nous en tant qu'enfants, en tant qu'animateurs, et qu'on revoit aujourd'hui, qui sont là aujourd'hui pour nous filer un coup de main, malgré le temps, qui font des kilomètres pour nous aider à préparer cette journée, à donner des coups de pioche, à donner des coups de scie, à tout mettre en état. On en a encore aujourd'hui. Et ces gens-là, ils reviennent. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire la même chose d'autres organismes d'éducation populaire qui font des vacances. Je ne suis pas sûr qu'ils bénéficient d'autant de bénévoles et de militants au quotidien. Donc voilà, écoutez, après je voulais remercier un peu tous ceux qui ont préparé cette journée avec nous. Alors j'ai fait une liste parce qu'en fait, sinon j'allais oublier la moitié des gens. Donc ça va être un peu fastidieux et pénible. Alors d'abord, je voulais remercier les associations qui nous ont aidés à monter cette journée, que ce soit au niveau logistique ou au niveau financier. Donc il y a la Ligue de l'enseignement de la Corrèze, la FAL 19, avec Jean-Marc ici présent, Peuple et Culture, Bram FM, le battement d'ailes, qui tient un petit stand d'or. Ils sont courageux, ils sont dans le froid sous le préau. Ça n'a pas été très bien pensé, ce préau, quand ça a été fait. Quand il y a du vent, ça, c'est vraiment glacial. La station Sport Nature de Tulle aussi, qui fait une activité canoë. Si après manger vous voulez aller faire du canoë, n'hésitez pas, Sylvain se tient à votre disposition, il nous fera une démonstration cet après-midi, je crois. Ensuite, les institutions qui nous ont aidés pour cette journée, la mairie de Saint-Priest-Jumel qui nous a mis à disposition la salle polyvalente, l'agglo de Tulle qui nous a aidés financièrement pour cette journée, la jeunesse et sport également, les imprimés Mogin, le cabinet comptable La Rive Valvaux, le crédit coopératif, la Maïf et Icodis. Voilà, ça c'est tous ceux qui nous ont aidés pour aujourd'hui. Après, plus largement, je voulais remercier les partenaires fidèles et réguliers de l'association, avec parmi le premier d'entre eux qui est Vacances au plein air, avec qui chaque année on travaille pour faire venir des enfants qui n'auraient pas la chance de partir en vacances si Vacances au plein air et Voilco n'étaient pas là. La Croix-Rouge de Tulle également, la Maison des Jeunes et de la Culture d'Herblay et d'Hermont, la mairie de Montigny, dont une classe a passé quelques jours ici il y a 2 semaines, et la mission locale de Tulle qui nous a accompagnés dans les changements qu'il y a eu dans les années 2000 avec le dispositif local d'accompagnement. Et puis pour terminer, les remerciements par rapport aux travaux, c'est-à-dire que vous avez vu qu'aujourd'hui le centre ressemble globalement à ce qu'il était en 1969 quand il a été inauguré, 68. Choses comme ça. Mais il y a pas mal de choses qui ont été changées, les huisseries, la cuisine, la toiture. Donc on remercie tous les artisans qui ont travaillé sur ce centre, même si avec certains c'était pas forcément facile au niveau des retards et tout. Les partenaires évidemment qui nous ont aidés à financer ces travaux, le Conseil général, le Conseil régional et l'Europe au travers le FEADER, Limousin Actif également. Et puis pour terminer, j'aimerais remercier tous les gens qui œuvrent au quotidien dans l'association et qui ont aidé à préparer cette journée. Les salariés, évidemment, Damien, Anthony, Célia, Blaise et Sandra. Oh là, j'allais oublier Sandra. Elle m'en aurait voulu éternellement. Merci beaucoup à mon souffleur. Donc je remercie mon souffleur, Alix et Caril qui sont membres du conseil d'administration et qui se sont investis très fortement sur ces 50 ans-là. En étant honnête au départ, on n'y croyait pas forcément de pouvoir rassembler autant de gens et aujourd'hui, on est content de voir qu'il y a pas mal de monde quand même pour être avec nous aujourd'hui. Donc merci Alix et Caril d'avoir travaillé là-dessus. Et puis merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui nous ont filé un coup de main, comme je disais, pour débroussailler, pour tondre, pour faire tout ça. Et espérons que dans 10 ans, on soit encore là, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, et ainsi de suite.